Bonjour Mélissa.
Bonjour Bertrand, eh bien c'est à toi, nouvel invité sur ce plateau.
Nous recevons Guillaume Poujade, Cité, Territoire, Environnement et Société, qui a présenté un travail dans le cadre de l'axe RO-EESE, Recherche opérationnelle et enjeux environnementaux, sociétaux et éthiques, dans le cadre du congrès 2026 de la Société française de recherche opérationnelle et d'aide à la décision. Le titre de votre recherche va faire dresser les oreilles de nos auditeurs « Quand la recherche opérationnelle lutte contre le cyberharcèlement ». Guillaume Poujade, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous retracer votre parcours et ce qui vous a induit à axer votre recherche sur la lutte contre le cyberharcèlement?
Merci de me donner la parole aujourd'hui. Je suis donc étudiant doctorant à l'université de Tours. Ce qui m'a amené en fait à travailler sur le cyberharcèlement, c'est que je pense que c'est un sujet de société auquel on est à peu près tous confrontés aujourd'hui. On vit dans une société qui est quand même assez violente. Et c'est vrai qu'en regardant l'actualité, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressé, notamment par rapport à la vulnérabilité que peuvent ressentir les adolescents par rapport à ça. Dans le sens où c'est vrai qu'avant, moi j'ai pas vraiment grandi avec les réseaux sociaux, mais il se trouve qu'il y avait déjà des cas de harcèlement, notamment à l'école. Mais avant, ce qui était bien, c'est que les adolescents, les enfants, quand ils rentraient chez eux, normalement, le harcèlement s'arrêtait. Et la problématique du cyberharcèlement, c'est que finalement, aujourd'hui, le harcèlement se déroule aussi à la maison, dans leur chambre. Et il semble que beaucoup de parents soient démunis face à ça. Et donc je pense que c'est un enjeu de société qui est particulièrement important.
Alors l'ARO, la recherche opérationnelle, la mise en œuvre de techniques de sciences de gestion, de mathématiques et de sciences de l'informatique pour résoudre des problèmes théoriques et pratiques. La recherche opérationnelle, comment peut-elle s'appliquer à la lutte contre le cyberharcèlement? Ces méthodes, ça passe par de la modélisation, puis ensuite de la résolution. Dans la phase modélisation, en quoi on peut arriver à capturer l'essence du cyberharcèlement par des équations mathématiques ou des graphes?
Vous avez tout à fait raison. Ce qu'on cherche à faire, nous, c'est essayer de modéliser le cyberharcèlement. Et l'avantage, finalement, avec la recherche opérationnelle, c'est que d'une part, vous pouvez essayer de diminuer en fait, le cyberharcèlement global dans un réseau. Et alors, pour moi, le gros avantage, c'est de pouvoir intégrer en fait, des contraintes. Et par exemple, vous pouvez décider de protéger en priorité les personnes les plus vulnérables. Donc ça peut être par exemple les adolescents, mais ça peut être aussi les personnes âgées qui n'ont pas forcément l'expérience des réseaux sociaux parce que c'est pas vraiment leur époque. Et donc ça, c'est vraiment très important comme dimension. Et le fait de modéliser, ça vous permet ensuite de pouvoir développer un outil avec des algorithmes. Et ensuite, à travers la résolution du problème, vous pouvez en fait, ça peut être utilisé par exemple une plateforme de modération d'un réseau social. Et à partir de là, ça peut lui permettre de détecter très rapidement du cyberharcèlement et très rapidement d'arriver à le supprimer du réseau. Ou alors, enfin, le supprimer, c'est peut-être un grand mot, mais au moins le diminuer très fortement.
Donc on a des enjeux effectivement à développer cet axe de recherche, mais si on revient à l'optimisation sous contrainte, pour ce qui est du cyberharcèlement, qu'est-ce que vous avez identifié comme contrainte et surtout comme critère? Qu'est-ce que vous cherchez à optimiser et sous quels critères?
Alors, ce que j'ai cherché à minimiser, alors moi, en fait, souvent, quand on est sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui publie beaucoup de contenu problématique, forcément, il va être sanctionné, ce qui est absolument logique parce qu'il faut désinciter un individu. Mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment me placer du côté des victimes. Donc, ce qu'on appelle, nous, en fait, une fonction objective, c'est ce qu'on va chercher à minimiser. Et c'est minimiser, en fait, la quantité, entre guillemets, de cyberharcèlement qui circule finalement dans le réseau. Vous voyez, par exemple, ça, on peut le modéliser à travers les messages, en fait, qui sont envoyés sur les réseaux. Quelqu'un envoie un message avec un contenu problématique. Alors, ça peut être une insulte raciste, par exemple. Ça peut être du contenu sexuellement explicite. Et à partir de là, ça fait en fait, on peut voir ça comme un flux, finalement, le harcèlement. Et l'idée, c'est d'arriver, en fait, avec la modélisation, avec cette fonction, justement, à minimiser le nombre de flux qui circulent dans le réseau.
Pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément spécialistes de l'aéro, un flux, ça fait penser à des tas de choses. Pour un chercheur en mathématiques, flux, ça a un adressage très particulier. Est-ce que vous pourriez le préciser à nos auditeurs, puisque vous avez utilisé le mot plusieurs fois?
Oui, tout à fait. En fait, finalement, c'est vrai que c'est un peu comme c'est comme tout type de réseau, finalement. Vous avez un réseau, par exemple, hydraulique avec de l'eau. Par exemple, vous avez des flux qui traversent, sauf que là, c'est pas de l'eau, c'est pas physique, en fait, c'est du harcèlement, c'est des messages agressifs, par exemple, qu'un utilisateur, finalement, envoie à un autre. Et donc, comme ça, il y a des messages qui circulent, et ça produit, finalement, du harcèlement. C'est pour ça que je parle peut-être un peu abusivement de flux, mais on peut le voir comme ça, parce qu'après, vous pouvez le modéliser comme un réseau où il y a des flux qui circulent, finalement. Un peu comme un réseau où il y a de l'eau qui circule, ou même, vous pouvez penser à un réseau électrique, où vous avez l'électricité qui circule, qui va d'un point A à un point B. Là, au lieu que ce soit de l'électricité ou de l'eau, par exemple, ça va être des messages toxiques, ça va être du harcèlement... tous les contenus problématiques.
Merci. Et donc, dans de nombreux interviewés à qui nous avons eu l'honneur d'accéder, la partie modélisation nécessite aussi un recueil de données.
Oui.
Est-ce que vous avez pu recueillir un certain nombre de données? Vous parlez de messages toxiques, par exemple. Quelle a été votre méthodologie à ce niveau-là?
Alors, la méthodologie, on est un peu contraint par rapport à ça, parce que les données sur le cyberharcèlement, elles sont difficiles à obtenir. En général, les plateformes ne les communiquent pas. Et puis, d'autre part, on peut essayer de les récupérer nous-mêmes avec des algorithmes. Par exemple, vous observez par exemple un réseau social et vous allez essayer par exemple de prendre les messages qui sont diffusés sur le réseau social. Mais à ce moment-là, le problème, c'est que vous êtes en quelque sorte en concurrence avec la plateforme parce qu'elle va faire son travail de modération. Donc, elle supprime très rapidement les messages qui sont toxiques. Donc c'est très compliqué de collecter des données. Heureusement, j'ai pu avoir accès sur une base de données publique sur le réseau social Reddit. Donc c'est un réseau social où des gens communiquent, comme un forum de discussion finalement, où il y a des messages qui sont échangés. Et c'est un forum où il y a beaucoup de contenu de harcèlement, beaucoup de messages toxiques. Et j'ai pu avoir accès à une base de données publique. Donc j'ai collecté un certain nombre de commentaires sur une journée. Et à partir de là, ensuite, j'évalue en fait la toxicité de chaque commentaire. Alors là, c'est un autre problème, une autre démarche, parce qu'il faut arriver à évaluer la toxicité d'un commentaire.
Qu'est-ce qu'un message toxique?
Exactement. Et donc, vous avez des modèles comme ça, des modèles de langage qui sont pré-entraînés, qui sont entraînés en fait sur des millions d'exemples finalement, et qui ont été entraînés à détecter ce que c'est un message toxique. En fait, pour faire simple, il se base sur une grille d'évaluation qui correspond à 6 critères. Donc le modèle, il va noter chaque critère. Donc il y a le niveau d'agressivité, il y a est-ce que le message il contient un contenu sexuellement explicite, est-ce qu'il y a du racisme dans le message. Il va noter en fait chaque critère entre 0 et 1. Et en fait la toxicité du message, ce sera le score le plus élevé en fait parmi les 6 critères. Et ça nous donne en fait une idée de la toxicité du message.
Ce recueil de données dans les messages toxiques, il vous a obligé à plonger dans les bas-fonds de l'âme humaine, quelque part. Dans quel état en êtes-vous ressurgi?
Alors, vous avez parfaitement raison, je suis allé dans les tréfonds du réseau social Reddit et je me suis rendu compte de toute la violence qui pouvait exister. Alors, tous les commentaires ne sont pas comme ça, je tiens à le préciser, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de commentaires qui étaient tout à fait normaux, des gens qui discutent normalement, mais une forte part était, correspondait à des messages de harcèlement, et je suis tombé, oui, effectivement, sur des messages très problématiques. Alors après, c'est vrai que des fois, c'est toujours difficile à évaluer, parce qu'il y a toujours une part de sarcasme ou d'ironie. Donc là, c'est pareil, il faut essayer de faire la part des deux, des choses. Mais quand on, les messages sont vraiment toxiques, on voit, il y a aucun doute là-dessus, quoi. C'est vraiment des messages d'une grande violence. Moi, je savais que les réseaux sociaux contenaient une forte violence. Mais par exemple, quand vous prenez conscience que Reddit, vous avez des adolescents qui y vont et vous voyez les messages en fait auxquels ils sont confrontés. Mais quelque part, d'une part, vous remettez en cause en fait votre vous comprenez en fait dans quel monde entre guillemets vous vivez, et parfois ça peut vous remettre certaines choses en question finalement.
C'est presque philosophique, mais si on revient sur l'aspect technique, donc une fois que le modèle a été mis en place, c'est-à-dire qu'on a notre graphe et puis on a nos flots qui circulent, quelles techniques on peut mettre en œuvre pour justement minimiser les flots toxiques et valoriser les flots un peu plus sains, si on veut.
Ah oui, eh ben ça vient notamment par exemple de la modélisation. Et là, en général, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de sanctionner les utilisateurs qui sont les plus problématiques. Alors il y a plusieurs façons, ça c'est le travail des plateformes de modération, où par exemple, soit elles vont avoir plusieurs leviers en fait. Donc ça peut être un avertissement, mais c'est vrai que dans les cas les plus graves, ça va être de bannir totalement l'utilisateur du réseau. Donc si vous avez comme ça par exemple plein d'utilisateurs finalement dans un réseau, l'algorithme en fait, ça va être un algorithme qui va tourner et qui va en fait, entre guillemets, soit avertir les utilisateurs pour essayer de les désinciter en quelque sorte à adopter des comportements problématiques, ou alors certains, l'algorithme va nous dire dans le réseau il faut supprimer tel sommet. Alors supprimer, c'est pas supprimer l'utilisateur, en fait c'est vraiment le bannir quoi, totalement, si vraiment le contenu est trop problématique. Et à partir de là, y a une question de protection des victimes et protection des mineurs également. Le modèle, je l'ai vraiment pensé pour faire en sorte que on va bannir par exemple en priorité les utilisateurs qui ciblent en priorité les adolescents par exemple.
Effectivement, bannir lorsque c'est avéré, il y a aussi une mécanique du fonctionnement des réseaux qui font qu'il y a une viralité et une forte propagation des messages toxiques alors que les messages moins toxiques le sont moins. En quoi la recherche opérationnelle et les méthodes et les techniques que vous utilisez, les recherches que vous menez pour mettre à bien tout ça, en quoi ça peut réussir à freiner, c'est-à-dire à couper le mal à la racine quelque part, à éviter que ça se propage avant que ça devienne viral?
Ah oui, vous avez parfaitement raison, c'est exactement ça, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment d'essayer de limiter la propagation, parce que c'est un des problèmes du cyberharcèlement, c'est que ça se diffuse très rapidement finalement. Et c'est pour ça que je parlais de flux d'ailleurs, parce que finalement quand ça commence à se déverser, entre guillemets, voyez-le vraiment comme ça, sur le réseau, il faut l'arrêter très vite, parce que sinon ça prend une ampleur qui est absolument incontrôlable. Et donc par rapport à ça, la recherche opérationnelle, ce qu'elle permet de faire, c'est d'arriver à détecter très rapidement là où en fait où les points sont problématiques. On va essayer de bannir en priorité les utilisateurs, où on va pouvoir anticiper que eux, ils sont réellement problématiques et c'est eux qui vont être les facteurs de diffusion. Et grâce à ça, en agissant, alors soit en les avertissant, soit malheureusement en les bannissant totalement, on va pouvoir, on va dire, stopper, minimiser largement la propagation. Alors après, c'est vrai que je parle de bannir, je parle beaucoup de sanctions ici, mais c'est pas la seule dimension qui existe. Parce qu'après, l'idée, c'est d'arriver aussi à modéliser le fait qu'on va essayer d'entrer, par exemple, on va essayer de prendre en compte, on va essayer d'entrer en communication avec la personne aussi, on va prendre ça en compte. Le fait ensuite qu'il faut quand même respecter les gens. Parce qu'il faut être conscient qu'il y a des gens, même ceux qui harcèlent les autres, ils ont des fragilités psychologiques. Et donc ça aussi, il faut il faut le prendre en compte avant de prendre une décision.
Surtout que certains harcelés sont aussi harceleurs, Est-ce que vous l'avez vu ça dans votre établissement du modèle?
Ah oui, tout à fait. Oui, dans mon modèle, il y a un cinquième, 20% à peu près des harceleurs qui sont également harcelés. Pardon, parmi les harceleurs, il y en a 20% qui sont aussi des victimes de harcèlement. Et ça, quand vous lisez notamment toute la littérature, tous les articles qui ont été publiés qui concernent le cyberharcèlement, c'est quelque chose qu'on retrouve très fréquemment et qui peut expliquer en fait pourquoi des gens se mettent à harceler d'autres, parce qu'eux-mêmes, en fait, ils ont été victimes de harcèlement auparavant.
Alors la question qui vient, c'est où en êtes-vous dans le phasage de vos recherches? Est-ce que vous êtes au début, au milieu, à la fin? Et quelle perspective par rapport à la continuation de cette recherche?
Alors là, je suis vraiment au début. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire de la littérature, à me renseigner sur le sujet pour bien comprendre comment ça fonctionnait. J'ai pu donc essayer de développer un modèle qui serait en fait un outil pour essayer, par exemple, qui pourrait être utilisé par une plateforme pour essayer justement de minimiser le cyberharcèlement pour protéger au maximum les victimes. Mais disons que c'est vrai que par exemple, il manque beaucoup de données sur plusieurs choses. Par exemple, il faudrait que j'arrive à déterminer quand il y a une sanction, un type de sanction, soit avertir, soit par exemple quand on avertit un utilisateur, quel impact psychologique ça peut avoir. Parce qu'est-ce que ça va totalement l'arrêter? Est-ce qu'il va se dire, ok, j'ai été averti, donc maintenant j'arrête d'envoyer des messages problématiques? Ou est-ce que il va essayer justement peut-être d'employer des stratégies, par exemple, pour essayer de se dire, on peut observer ça, par exemple, des utilisateurs qui sont des harceleurs, mais après, ils reçoivent un avertissement et ils essayent de s'adapter par rapport en fait à la politique de modération de la plateforme. Et donc, si vous voulez, il y a une sorte de jeu stratégique qui se joue entre les deux. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est arriver finalement à anticiper aussi les réactions des utilisateurs derrière, finalement. Et ça, c'est un des enjeux, une des perspectives qui peut être développée finalement pour la suite. Parce que, en fait, l'avertissement a une dimension qui est très importante parce que l'intérêt de la plateforme, c'est pas forcément de bannir les utilisateurs. En général, il vaut mieux essayer de les avertir, de faire preuve vraiment de psychologie, et après de leur laisser une deuxième chance pour que les choses se passent bien finalement, les choses se passent sereinement. Parce que le problème, c'est que quand vous bannissez totalement un utilisateur, le risque, c'est qu'il crée un nouveau pseudo, et qu'après, ils reviennent réharceler avec un nouveau pseudo. Et il y a des problèmes d'anonymat, même si les plateformes potentiellement, enfin les autorités peuvent connaître l'identité d'une personne, mais c'est quand même très compliqué, ça demande du temps. Donc il faut peut-être plutôt privilégier les avertissements et faire preuve de psychologie finalement. Et ça aussi, c'est une perspective qui est importante.
Est-ce que vous tenez compte dans votre modèle du fait que certaines plateformes ont intérêt à, non pas à favoriser, mais voient d'un bon œil les acteurs qui font du buzz, hein, d'une certaine façon?
Oui, ah bah vous avez bien suivi ma présentation. Exactement, c'est-à-dire que j'ai pris ça en compte dans mon modèle, le fait qu'il est possible qu'il y ait des utilisateurs qui soient très populaires. Par exemple, ils font vivre le réseau, typiquement, ils envoient beaucoup de messages, ils publient beaucoup de contenu, donc forcément, finalement, ils font vivre le réseau. Et donc le réseau, on peut penser que finalement la modération, et c'est pas forcément quelque chose qui est volontaire, c'est pas forcément quelque chose qui est voulu, c'est tout à fait humain. C'est-à-dire que la plateforme, elle a un modèle économique à préserver, et donc à partir de ça, peut-être qu'elle peut avoir un comportement différent par rapport à une personne qui est très populaire, peut-être la modérer d'une façon un peu différente par rapport aux gens qui sont un peu moins connus. Mais ça, finalement, ça c'est un problème humain dans toute la société. Vous ne vous comportez pas de la même façon avec une personne qui a une position sociale qui est très élevée qu'avec une personne que vous ne connaissez pas et que vous croisez comme ça dans la rue. Donc c'est un peu pareil avec les plateformes de modération. Elles n'ont pas forcément intérêt et même elles n'ont pas forcément le même comportement avec les utilisateurs qui sont très populaires, qui publient beaucoup de contenu, qui font vivre la plateforme et qui rapportent de l'argent, qu'avec les gens un peu plus anonymes. Je dirais.
Donc on attend impatiemment que votre recherche se développe. Merci. Et puis aboutisse à des avancées majeures.
Alors pour nos auditeurs qui arriveraient en cours de route, donc vous avez expliqué qu'il y avait une idée de filtrage, de filtrer les messages problématiques, donc soit qui sont envoyés directement à un utilisateur ou qui sont publiés dans un fil. Et en fait, peut-être que nos auditeurs ont remarqué que ces filtrages étaient relativement peu efficaces sur certains réseaux sociaux, qu'on peut signaler pas mal de messages problématiques et en fait ils ne sont pas détectés comme tels. Parce que l'IA ou la façon dont ça a été programmé ne le détecte pas. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire ? Qu'est-ce que votre travail va justement apporter en plus pour éviter ces biais-là, en fait ?
Alors oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que malheureusement, déjà la détection du cyberharcèlement, c'est même par un algorithme, c'est très compliqué. Dans le sens où finalement il peut y avoir il y a une ambiguïté de toute façon, c'est-à-dire que ça peut être du sarcasme, ça peut être de l'ironie. Donc à partir de là, l'algorithme ne peut pas remplacer l'œil humain finalement. Il y aura de toute façon toujours une intervention humaine pour décider s'il faut finalement sanctionner quelqu'un. Donc en fait, il faut vraiment voir le modèle, l'algorithme comme une aide à la décision, mais ce n'est pas l'algorithme qui va prendre la décision. À part dans des cas vraiment extrêmes où on se rend compte que le niveau de toxicité il est tellement élevé qu'il faut protéger vraiment en priorité les victimes, et là il faut arrêter absolument les commentaires, il faut arrêter la vague en quelque sorte de cyberharcèlement. Mais effectivement, il y a toujours un œil humain. Et ben, ce que peut faire en fait mon modèle, c'est informer un peu mieux l'équipe de modération un peu plus rapidement et vraiment arriver à cibler vraiment les cas les plus problématiques. Et quand je parlais de diffusion tout à l'heure, essayer vraiment de voir ceux qui potentiellement vont être vraiment des vecteurs de diffusion finalement. Et ça, le modèle peut parvenir à le faire finalement. Et c'est en ça que ça peut aider la modération vraiment à agir beaucoup plus rapidement.
Alors vous mentionnez l'idée que ça peut être du sarcasme ou de l'ironie. Alors là, on tombe aussi dans une question éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on considère comme normal ? Est-ce que c'est normal de s'insulter, de s'appeler avec des insultes, en fait, de se traiter de « je ne veux pas le dire », mais voilà, est-ce qu'on peut considérer « bah ça, c'est une sociabilité adolescente un peu masculiniste normale, du coup, on ne le supprime pas ?» Ou alors, est-ce qu'on se dit « eh ben, c'est quand même problématique que des jeunes gens trouvent normal de se traiter de je ne sais quoi par amitié, je ne sais pas en fait. Qui peut décider de ce qui est normal ou pas ?
Ah bah ça c'est une très bonne question. Je pense que ça c'est tout un débat. Alors c'est vrai que là où vous avez raison, c'est que les modèles qui détectent la toxicité doivent absolument être souvent actualisés, doivent toujours être surveillés, doivent toujours avoir un contrôle humain sur comment on détecte la toxicité, parce que vous avez parfaitement raison, finalement, il faut absolument que les modèles qui détectent la toxicité, ils soient vraiment en accord avec leur époque, finalement. C'est-à-dire que... Et ça, ça peut passer notamment par peut-être plus de démocratie, peut-être de l'intervention de citoyens finalement qui auraient un regard par rapport à ça, par exemple, qui serait convoqué, qui serait demandé pour donner leur opinion sur comment fonctionnent les choses. Finalement, ça c'est vraiment très important. Comme je disais, le regard humain, de toute façon, c'est vraiment ce qui est le plus important. Moi, je développe des outils, mais je ne prétends pas détenir la vérité. Les outils ne remplaceront jamais l'œil humain. Là, voilà, c'est une certitude.
Voilà, enfin, pardon, j'enfonce le clou, mais je pense à certains groupes où c'est normal et drôle de s'interpeller avec ce qui peut, pour d'autres groupes, être une insulte homophobe, par exemple. Donc là, du coup, c'est-à-dire que pour parfaire votre algorithme, vous allez faire appel, par exemple, à différentes communautés pour leur demander qu'est-ce qui, pour vous, est acceptable. Je ne sais pas.
Non, parce que de toute façon, en fait, je me réfère beaucoup aux définitions qu'on trouve dans la littérature, et en fait, elles sont assez précises finalement. Il faut qu'il y ait un caractère intentionnel, il faut que ce soit un acte agressif, donc soit du harcèlement direct, soit du harcèlement indirect. Et dans le cadre de communautés, de toute façon, en fait, finalement, pour moi, c'est pas un problème qui se pose parce que ça va assez vite finalement. C'est-à-dire que quand on échange des messages, quand on commence à échanger des messages homophobes, de toute façon, même pour rigoler, quelque part, en fait, ça va assez vite. Il y en a un qui publie un commentaire caractère homophobe, il y en a un autre qui va publier, en fait. Donc il va y avoir très rapidement, en fait, des éléments de répétition. Et là, de toute façon, l'algorithme va le prendre en compte et va sanctionner les utilisateurs. Parce que je parlais de sarcasme et d'ironie quand ça arrive, voilà, une fois, comme ça, etc. Mais quand ça commence à devenir vraiment répétitif, là, c'est sûr que ça ne va pas passer, quoi. C'est pas possible. Mais vous avez raison sur le fait que c'est absolument problématique. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et le fait que vous en parliez, ça me fait prendre conscience qu'effectivement, il faudrait peut-être revoir certaines choses, parce que le fait qu'il y ait déjà un commentaire qui soit à caractère homophobe, ça représente déjà un problème en soi. Parce que comme je disais, il y a des phénomènes de diffusion. Et donc à partir de là, les autres, s'il y en a un qui commence à se comporter de cette façon, les autres ils vont commencer à se comporter également de cette façon. Là, vous avez tout à fait raison. Donc là, ça peut être un point, effectivement, où il faudrait améliorer sans doute les choses, finalement. Et peut-être que, oui, les modèles en fait, qui détectent la toxicité devraient peut-être être entraînés différemment pour essayer de se dire non, en fait, il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de sarcasme, mais on va essayer vraiment de supprimer ce type de commentaire, finalement. Tout à fait.
Est-ce que vous pourriez travailler avec la plateforme Pharos, par exemple ?
Ah oui, c'est totalement possible, oui. Oui, moi ça m'aiderait, parce que du coup je pourrais collecter plus de données, finalement, et donc améliorer mon modèle. Et en fait, moi, l'intérêt par rapport à eux, c'est qu'eux, ils doivent avoir une grande expertise, une grande expérience. Et donc, je pense qu'ils pourraient m'apprendre des choses par rapport au comportement qu'ils ont pu observer. Parce que j'imagine qu'en fait, ils ont dû observer plein de comportements, ils ont beaucoup d'expérience. Et je pense qu'ils pourraient m'aider à améliorer mon modèle. Oui.
Bon, bons entendeurs. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait de, si un utilisateur problématique se fait ban, enfin, est banni d'un réseau, il peut tout à fait se refaire un autre compte. Donc là, en fait, dans quelle mesure on pourrait dire, on enregistre l'adresse IP ? Du coup, est-ce que ça, c'est pas intrusif ? Par contre, légalement, est-ce qu'on peut faire ça ? De dire, on a enregistré l'adresse IP, donc on sait que c'est vous.
Après, si l'utilisateur il est interdit, il a été banni du réseau, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est-à-dire que soit il a un comportement qui a été problématique de façon répétée, soit il a vraiment publié quelque chose de très grave. Et à ce moment-là, je pense que le racisme en France, c'est un délit, par exemple, hein, où les commentaires à contenu, avec ces contenus sexuellement explicites, pareil, c'est totalement interdit. Donc à partir de là, je vois pas de raison pour que la gendarmerie ne soit pas avertie, et puis qu'en fait là il voit avec par exemple son fournisseur d'accès à internet pour le retrouver, finalement. Et alors après, prendre les sanctions qui s'imposent, hein. À partir du moment où c'est très grave, de toute façon, là, je parlais tout à l'heure de prendre en compte la fragilité psychologique des individus, c'est très important. Mais quand il y a des comportements comme ça qui sont vraiment très graves, ou alors vraiment répétés dans le temps, là, à ce moment-là, il faut vraiment... En priorité, il faut arrêter la personne, de toute façon. Ça, c'est le plus important. Pour pas que ça se diffuse.
Et alors, vous parliez donc de détecter les contenus problématiques, mais est-ce que votre algorithme peut aussi détecter, disons, les bots, par exemple, ou alors des essaims d'IA, en fait, qui vont venir, qui sont commandités par on ne sait qui, et qui vont venir faire du shitposting, quoi, sous des contenus ?
Oui, alors après, ça dépend comment c'est fait. C'est-à-dire que ça dépend la qualité de, entre guillemets, la qualité de leur travail, on va dire. Parce que, par exemple, je vous donne un exemple, on peut le faire, créer des bots, on peut le faire de plusieurs façons, mais par exemple, il y a des gens qui vont envoyer un message toutes les secondes, par exemple, et ça, on sait très bien que c'est impossible. Donc là, on va arriver à détecter très facilement que c'est des bots, finalement. Après, s'ils emploient des moyens qui sont un peu plus sophistiqués, ça peut être un peu plus compliqué de les coincer, finalement. Mais après, il y a du filtrage de toute façon. De plus en plus, les plateformes de modération, tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, X, etc., elles ont des moyens de protection qui sont extrêmement sophistiqués, de toute façon. Donc par exemple, si vous essayez une personne comme ça, anonyme, essaye de le faire, il va être très rapidement bloqué, de toute façon. Parce que la plateforme, elle va détecter son IP, et donc elle peut normalement, elle doit pouvoir le bloquer. Mais on n'est pas à l'abri que ça arrive, hein, de toute façon, parce que il y a des gens qui sont, entre guillemets, très compétents dans leur domaine, et malheureusement, des fois, on n'est pas à l'abri de certaines choses.
Et alors, vous mentionnez l'idée de supprimer les messages qui sont visibles. Malheureusement, si ça a été partagé 1 000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, dans quelle mesure supprimer le message initial, ça peut, effacer ? Est-ce qu'on peut espérer effacer tous les messages qui auraient été, tout répliqués, copiés ?
De tout ce qui a été posté, Là, à mon avis, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué finalement, parce que ça va demander beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Alors, typiquement, je vous donne un exemple pour illustrer la chose. C'est qu'il y a eu le cas d'une collégienne qui s'appelait Lindsay, qui a été, qui malheureusement s'est suicidée après un acte de voilà, des actes de si. Elle a vécu vraiment un harcèlement qui était très important. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y a encore du cyberharcèlement qui se déroule contre elle. Il y a encore des messages qui sont envoyés, il y a encore des photos d'elle qui circulent. C'est très très compliqué parce qu'il faut retrouver les utilisateurs, il faut essayer de... Il y a toute une enquête en fait à faire, il faut déjà voir qui a posté le premier message, comment ça s'est diffusé. Oui, c'est vraiment comme une enquête finalement. Alors mon modèle ne peut pas faire ça malheureusement. Mon modèle vraiment, lui, il agit à la racine avant que la diffusion ne se déroule finalement. Donc il prend pas en compte quand ça s'est diffusé. En fait, moi, en quelque sorte, mon modèle, il peut plus intervenir finalement. Mais ça pourrait être intéressant d'essayer de trouver des solutions pour essayer justement de minimiser en fait le cyberharcèlement qui arrive après en fait finalement. Oui, vous avez raison.
Je ne sais pas, je propose. Et alors, une dernière question. À votre avis, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de penser à limiter l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans ?
Ah, moi, je suis totalement pour. Là, je fais preuve de... J'essaie toujours de faire preuve de réserve sur les choses. Mais là, je suis totalement favorable à ça. Je pense que... Bah après, ça vient aussi de mon expérience personnelle, dans le sens où moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas de réseaux sociaux, pas du tout. Et je pense qu'en fait, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Comme je l'ai dit au début de l'interview, avant, les jeunes subissaient du harcèlement à l'école, mais normalement, c'était censé s'arrêter à la maison. Mais alors aujourd'hui, malheureusement, le problème, c'est que c'est très compliqué pour les parents, parce que les jeunes, ils passent beaucoup de temps devant les écrans. Les parents, ils n'ont pas le temps de surveiller, ils travaillent, ils ont leur vie à mener également. Et puis les enfants, voilà, ils n'ont pas forcément envie de donner leur jardin secret, entre guillemets. Donc voilà, c'est pas évident. Donc oui, je suis favorable. Mais après, le problème, c'est les moyens. Parce que je pense que les adolescents, notamment, sont très forts en fait pour contourner les règles. Malheureusement. Donc ça, après, il faut voir comment ça peut s'organiser finalement.
Bon, affaire à suivre alors. Oui. Merci.
Merci à vous.